CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, notre thème du jour est « Que se cache-t-il derrière la Sainte Seine ? » Bonjour à tous.
Bonjour Yveline.
Aujourd'hui donc, nous allons parler de la Sainte Seine et nous allons prendre la Sainte Seine avec nos amis, nos frères et sœurs téléspectateurs. C'est ça, Frank ?
En effet, le lundi de Pâques.
Le lundi de Pâques, exactement. Donc, oui.
Et Seine avec un C, et non pas comme une scène de cinéma.
Non.
Pendant longtemps, j'avais fait la confusion.
Je t'avoue que moi aussi, pendant longtemps, on parlait de Sainte-Seine. Bah, pourquoi pas, ça avait l'air sain comme moment.
Donc avec un C ici, comme du latin, donc le repas, le saint repas.
Mais effectivement, j'allais le dire, tu vois. J'allais le dire. Mais bon, mon latin étant un peu rouillé, tu sais, j'ai pas voulu prendre de risques. Effectivement, Frank, comme tu l'as dit, le lundi de Pâques, donc c'est la belle opportunité pour parler de ce thème. Et Jonathan, on va rester dans le thème avec toi, tu vas nous parler Pasteur, j'ai une question, tu vas répondre à une question, tu veux que je la lise ?
Oui, concernant qui doit prendre la Sainte-Seine.
Les conditions, c'est ça. Quelles sont les conditions pour pouvoir prendre la Sainte-Seine ?
Ça va être compliqué, mais on va essayer.
On compte sur toi. Nadine, on reste toujours sur la Sainte-Seine. Tu nous présentes un livre de Derek Prince.
De Derek Prince, La puissance de la Seine, un livre qui vient expliquer tout ce qui se cache derrière la Sainte-Seine.
Bah alors, pourquoi faire cette émission, je te le demande.
C'est pas un peu
Aurélie, on va terminer avec toi. Tu auras un témoignage d'une guérison.
Oui, une guérison instantanée d'une jeune femme pendant qu'elle regardait Prière Inspirée.
C'est génial, tout ça, une très belle émission en perspective pour ce lundi de Pâques. Et on commence avec toi, Frank, dans la pensée du jour.
Et oui, aujourd'hui, on va parler de la Sainte-Seine, de la puissance qui se cache derrière cela, parce que pour beaucoup de gens, la Sainte-Seine ou le repas du Seigneur, la communion, peu importe le nom que vous lui donnez, il y a un peu cette pensée-là par rapport à ce que Jésus a dit. On va le lire ensemble dans Luc 22 et le verset 19. « Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc, pour beaucoup de personnes, et surtout si vous êtes, entre guillemets, un petit peu plus jeune, vous n'avez pas saisi ou eu vraiment d'enseignement par rapport à la Sainte-Seine, la communion, c'est plus, on dirait, un moment où on est là tous ensemble dans l'Église, et un peu comme ici au Canada, il y a le 11 novembre, c'est le jour du souvenir, on est ensemble et on prend et on se rappelle, « Jésus, tu es mort à la croix ». Et on dirait que c'est pas plus que ça, parce qu'on ne saisit pas la puissance qu'il y a derrière. Et oui, en effet, on se rappelle de ce que Jésus a fait, ça c'est vrai, mais quand tu regardes le contexte de ce que Jésus était après dire aux disciples, c'est tellement fort. Parce qu'en fait, il était en train de leur annoncer qu'il y était sur le point d'avoir une nouvelle alliance que Dieu et Jésus allaient établir entre Dieu et les hommes. C'était le sang qui allait être versé, son corps qui allait être meurtri, ce qu'il allait faire au travers de l'œuvre de la croix. Il était en train d'établir une nouvelle alliance avec nous. Et pour les disciples, je les imagine, qui étaient là autour de la table, et Jésus leur dit, voici, ceci est la nouvelle alliance. Ils devaient, à cette époque-là, ils comprenaient les alliances. Ils devaient se dire, mais une nouvelle alliance? On est dans une même alliance depuis des centaines et des centaines d'années. Et puis on se dit, waouh, il va y avoir une nouvelle alliance qui va être établie. C'est tellement fort et puissant. Et le livre de Hébreux nous dit que nous tous, on fait partie de cette nouvelle et meilleure alliance qui est basée sur de meilleures promesses. Donc en fait, quand on prend la communion ensemble, on se rappelle de ce que Jésus a fait à la croix. Oui, certainement qu'il est mort, ressuscité, pardonné nos péchés, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Toutes ces choses-là, ça c'est sûr et certain. Mais il y a une puissance, c'est que quand moi je prends la Sainte-Seine, Je l'utilise dans ma propre vie. Je peux le prendre à la maison aussi. On va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Je la prends parfois par moi-même ou avec ma femme quand j'ai certains défis qui sont là, parce que la Sainte-Seine représente l'œuvre complète de ce que Jésus a fait à la croix. Et c'est tellement fort. C'est pas un moment où ce qu'on est juste là à se remémorer quelque chose dans le silence. C'est un moment où ce qu'on peut recevoir ce que Jésus a acquis au travers de la foi, par la foi en fait. C'est comme ça. C'est un moment qui est très fort, et on va prendre la Sainte-Seine ensemble. Et avant, je veux juste vous exhorter, parce que la parole nous en parle dans 1 Corinthiens, on va aller le lire ensemble aussi, 1 Corinthiens chapitre 11 et les versets 23, c'est évidemment le passage classique sur la Sainte Cène. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et après ça, il nous exhorte à pouvoir s'examiner soi-même. On ne prend pas le repas du Seigneur n'importe comment. On doit être premièrement né de nouveau. On doit avoir vraiment vécu la nouvelle naissance. Et avant, moi, c'est quelque chose que je fais aussi. Je m'examine moi-même avant de prendre le repas parce que c'est quelque chose qui est très sérieux et qu'on doit prendre au sérieux. Mm-hmm. Et c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire dans nos églises une fois par mois. Certains, c'est une fois par semaine. D'autres, c'est un peu irrégulier comme ça. Mais quand tu regardes à la parole, nous, c'est devenu un peu comme un truc symbolique, si on veut, qui se fait une fois par mois. Aujourd'hui, c'est la communion. Quand tu regardes dans Actes chapitre 2, la parole nous dit que tous les frères et les sœurs et les apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mm-hmm. Et ça nous dit qu'ils prenaient cela d'une façon qui était plus régulière. Ils persévéraient là-dedans. Et c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. Fait qu'aujourd'hui, la Sainte-Cène, je veux que tu t'en rappelles, c'est pas un moment où est-ce que tu fais juste te rappeler que Jésus est mort sur la croix uniquement comme un moment de souvenir qui est solennel. C'est bien plus fort que ça. C'est qu'il est en train d'établir une nouvelle alliance entre toi et Dieu, une alliance qui était remplie de promesses et que lorsque tu prends la Sainte-Cène comme ça, tu, entre guillemets, actives, tu peux activer les promesses de Dieu dans ta vie. Quand tu la prends avec foi, tu dis, c'est ton sang qui a été versé pour moi, c'est ton corps qui a été meurtri pour que je puisse recevoir toutes ces choses-là. Et tu relâches ta foi à ce moment-là et puis tu vis des percées, en fait. Mm-hmm. Donc, je voulais juste ramener un peu ce principe-là. En 3 minutes, j'ai pas énormément de temps de parler sur la Sainte-Cène, mais je voulais établir juste un fondement et vous faire réaliser que c'est un peu différent de ce que peut-être vous avez vécu jusqu'à présent. C'est un moment solennel dans l'Église où personne parle. Non, c'est tellement puissant et fort. Et on va continuer d'en parler dans la discussion. Et restez avec nous si vous voulez aller préparer. Faites juste prendre un pain, un jus, quelque chose à la maison. Ça n'a pas besoin d'être un pain spécial ou quoi que ce soit. Faites juste le préparer, puis attendez-vous à vivre de grandes choses aujourd'hui avec nous.
Mm-hmm. Amen. Amen. Effectivement, hein, vous pouvez déjà vous équiper à la maison pour pouvoir prendre la Sainte-Cène avec nous dans quelques minutes. Merci, Frank, pour cette pensée qui n'a pas duré 3 minutes, mais 5 minutes.
Encore là, c'est comme... Ça, c'est juste... C'est même pas une...
C'est relatif, le temps.
C'est même pas une introduction à une prédication, Evelyne.
Je voulais juste préciser... Okay. La Sainte-Cène, c'est vrai que pour certains, c'est un peu compliqué à comprendre. Alors, on fait ça le dimanche à l'église et puis on le fait tous ensemble. Et puis, c'est un moment qui, en tout cas, paraît très solennel, un moment important. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tous forcément reçu que ce soit d'enseignement ou même de révélation personnelle par rapport à la Sainte-Cène. Puis, on va s'efforcer aujourd'hui dans cette émission, comme tu as commencé à le faire, à creuser un petit peu davantage et puis aller un peu plus loin que simplement le souvenir, bien que le souvenir c'est un premier point, ça en fait partie, mais il y a plus encore. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Et Frank, tu as commencé dans ta pensée, enfin à la fin de ta pensée, tu parlais que justement il y avait plus et tu citais qu'on pouvait recevoir quelque chose au moment de la Sainte-Cène. Il y a comme un point de contact en fait qui se fait.
C'est tellement fort parce que moi, la première fois que j'ai reçu un peu cette révélation-là, où j'ai entendu quelqu'un témoigner par rapport à ça, Je traduisais un prédicateur qui était là à Montréal, qui vient des États-Unis. Mm-hmm. Et il avait été guéri du cancer lorsqu'il était un jeune enfant, 9 ans, au travers d'une prédicatrice. Mais en tout cas, plus tard dans sa vie, dans la quarantaine, peut-être début cinquantaine, je me souviens plus de tous les souvenirs, mais il a été frappé une deuxième fois par un cancer qui était du foie, je crois. Et le médecin lui avait dit, en fait... C'est rendu phase 4, il n'y a plus rien à faire. Mm. Paf, c'était un prêcheur, hein, il voyait les gens guéris, tout ça, mm-hmm. Et puis c'était fini, monsieur, à la prochaine. Et donc lui, évidemment, c'est un homme de foi, il prie pour les malades, il croit dans la guérison divine et tout ça, et il m'a raconté ça dans le bureau 1-1. Mm-hmm. Il m'a dit, tu sais, Frank, c'est tellement puissant ce que Jésus a fait. Là, il a commencé mm-hmm. juste à m'exhorter. Et puis j'étais là devant lui, il m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné chez moi. Mm-hmm. Il dit, moi, ma femme, à tous les jours, lui, je crois que ça l'a pris à peu près 2 semaines où qu'il a eu vraiment le résultat, mais il a dit, on a pris la Sainte-Cène tous les jours. Et puis moi, j'avais jamais vu cet angle-là de la Sainte-Cène, en fait, à quel point c'était fort. Et même, il me disait ça, et dans ma tête, ça tournait. La Sainte-Seine, hein, on prend ça, on se rappelle. Et puis,
pourquoi
tu... Et puis là, il dit, pendant 2 semaines, on a pris la Sainte-Seine. Et puis, je croyais que je recevais ce que Jésus a accompli à la croix à travers de ce qu'il a fait. Mm-hmm. Et dit, je suis retourné voir le médecin quelques semaines après, et c'était entièrement parti.
Alléluia.
Et là, j'ai fait, wow, il y a une puissance. Ah, là, il y a quelque chose. Mm-hmm. Et là, j'ai commencé justement à creuser beaucoup plus par rapport à notre alliance, la Sainte-Seine, ce qu'il y a derrière ça. Et entre guillemets, drôlement, on voit pas dans les évangiles nullement des apôtres, de ceux qui prêchaient, qui sont morts de maladie ou quoi que ce soit, parce que moi, je crois qu'ils avaient vraiment la révélation de l'alliance, de ce que Jésus avait établi pour eux au travers de l'œuvre de la croix. Mm-hmm. C'est pas uniquement en faisant ça. Il peut avoir l'onction d'huile et tout ça. Comme tu dis, c'est un espèce de point de contact, si on veut. C'est tu as pris sur ton corps mes maladies. Mm-hmm. J'ai plus à les porter. Mm-hmm. Et là, je reçois. Et là, c'est comme ça, et j'ai entendu d'autres témoignages par la suite, des hommes et des femmes de Dieu qui sont très reconnus, je veux dire mondialement, qui ont vu des miracles extraordinaires, même pas en priant, en prenant la Sainte-Seigne, il y a eu des guérisons phénoménales qui se sont passées. Fait que c'est vraiment, oui, c'est un point de contact qui est là. Et pour vous à la maison, je veux vous encourager, peut-être c'est beaucoup, vous avez peut-être jamais entendu ça, mais c'est des faits concrets, des gens qui vivent aujourd'hui, qui ont vécu des énormes percées, au travers de la puissance de la Sainte-Seine qui est là, de l'alliance, de la nouvelle alliance qui a été établie.
Parce qu'en fait, la Sainte-Seine nous amène directement à la croix. On ne peut pas dissocier la Sainte-Seine de la croix. Parce que la Sainte-Seine en elle-même, le fait de boire une coupe de jus ou de pain sans levain, il n'y a pas de puissance là-dedans. Mais c'est que ça nous ramène directement à l'œuvre de la croix.
Oui, absolument.
C'est bien plus qu'un mémorial. Hein. Mm-hmm. Oui. Même si Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi », donc c'est sûr que c'est pour se souvenir. L'apôtre Paul dit « Souviens-toi de Jésus-Christ », donc c'est clair. Mais c'est pas juste « Je me souviens pour me souvenir ». C'est « Je me souviens et je me souviens des conséquences de ce que je me souviens ». Donc, ce n'est pas simplement « Je me souviens de ce que Jésus est mort sur la croix », mais « Je me souviens de l'impact de la mort de Jésus sur la croix ». Et donc, du coup, ça réactive d'une certaine manière. Ce n'est pas juste « Je me souviens qu'il est mort ». Il y a des crucifix partout dans les pays occidentalisés. On se souvient que Jésus est mort, mais ça ne fait rien. Mm-hmm. Parce que ici, l'idée, c'est d'être dans une communion et d'être donc participant à sa mort et à sa vie, et donc se souvenir de ce qu'il a fait, et que ce qu'il a fait a des conséquences directes sur nous, que ce soit au niveau de la guérison, au niveau de l'alliance, et de dire, je ne me souviens pas simplement qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Jésus, qui est mort sur une croix un jour, mais c'est que non, sa mort, c'est ma vie.
Exactement.
Pour aller dans le même sens, c'est vraiment de réaliser que c'est une réalité spirituelle, en fait. Non seulement ce qui s'est passé à la croix est réel, c'est réel parce que Jésus est mort, mais c'est réel aussi pour moi, parce que tout ce que Jésus a fait est mon partage quand j'ai accepté Jésus-Christ. Donc c'est vraiment de ne pas... c'est pas vague, c'est vraiment des choses concrètes, réelles, par rapport à notre vie qu'on est en train d'activer quand on prend la Sainte-Seine. Et on connaît comment fonctionne le monde spirituel, il fonctionne avec la foi. Et vraiment, quand on prend conscience de ces choses... et qu'on active notre foi par rapport à l'œuvre de la croix, et on prend la Sainte-Seine, mais il y a des choses qui se passent. Et c'est comme ça qu'on a vu, effectivement, comme Frank disait, de nombreux témoignages des personnes qui ont vu, en fait, qui se sont vues, par exemple, guérir parce qu'elles ont pris la Sainte-Seine.
Exactement. On va regarder notre verset du jour que tu as cité, Frank, 1 Corinthiens 11, 26. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Frank, qu'est-ce que ça veut dire, ce verset?
Ça, c'est puissant. Parce que j'aime quand je prends la Sainte-Seine. Et puis, tu te rappelles encore là, évidemment, Jonathan a un doctorat du livre des Actes. Il en connaît beaucoup plus que moi. beaucoup plus que moi. Mais à cette époque-là, quand tu t'identifiais chrétien, c'était comme un panneau dans certaines villes, persécute-moi en fait. Et puis c'était quelque chose qui était, à l'époque, c'était quelque chose. Et puis ils se réunissaient ensemble, et moi je crois qu'ils le faisaient régulièrement, le repas du Seigneur comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est la parole nous dit, à toutes les fois que vous mangez, vous buvez cette coupe, vous annoncez. Donc il y a une annonce, il y a un décret qui se fait que, entre guillemets, premièrement, je m'associe à Jésus et ce qu'il a fait. Pour nous, aujourd'hui, c'est commun dans l'Église, mais on se dit, on annonce quoi? Pour les incroyants, pour les gens autour de nous, quand ils voient les gens qui prennent la communion, ils disent, wow, ils annoncent, c'est des gens de foi, c'est des gens qui ont mis leur confiance en Jésus, on s'est supposé être ça, en tout cas. on annonce au monde spirituel qui est là, autant que naturel, on annonce la mort du Seigneur. La mort du Seigneur, c'est pas juste qu'il est mort et ça l'a fini là. On le sait, la bonne nouvelle de Jésus, c'est qu'il est mort et il est ressuscité dans la gloire et il est vivant encore aujourd'hui. Donc encore là, on annonce la mort du Seigneur, ce qu'il a fait. Et non seulement ça, on annonce qu'il revient bientôt. Et même au temps des apôtres, ils croyaient que c'était bientôt. Aujourd'hui, on croit que c'est bientôt. On annonce qu'il est mort, ressuscité, et qu'il revient bientôt. Et on annonce publiquement notre foi lorsqu'on fait cela, fait, entre frères et sœurs et tout ça. Et quand tu réalises, c'est quoi? Tu dis, waouh, c'est pas juste encore là le fait d'un rituel. C'est devenu très cérémonieux, cérémonial. C'est rendu, parce, à cause de toutes sortes de raisons, les gens ont vu la communion. C'est... Mais non, c'est tellement puissant ce qui se passe. Et quand que tu identifies, on revient à ça parce que je veux que les gens comprennent cela à la maison. Quand tu places ta foi dans ce que Jésus a fait, tu l'as dit à Evelyne, il n'y a aucune puissance dans le fait de manger un morceau de pain. Moi, chez moi, je le fais avec un morceau de pain normal que je me fais des sandwichs avec. C'est pas le pain qui a quelque chose.
Il n'y a rien de mystique.
Non, voilà. Pas du tout. C'est en esprit. Oui. C'est ce pain, Jésus, quand il a dit « ceci est mon corps », mais c'était pas le pain qui était son corps. Mais c'est non. En esprit, il allait se passer quelque chose à son corps qui est rompu pour vous. Et c'est pour ça qu'il a dit « ceci est mon corps qui est rompu ». Flagellé, meurtri pour vous. C'est dans l'esprit qu'il s'est passé quelque chose. Et encore là, quand on regarde à ce qu'on annonce, on annonce sa mort et son retour qui est imminent aussi. C'est, très fort qu'il
finalement,
s'est passé.
Finalement, on déclare qu'il est ressuscité. Absolument. C'est que ça s'est pas arrêté à la mort, à la croix.
Pas du tout.
Mais ça va plus loin. On déclare sa résurrection. Et qu'il revient, on déclare qu'il est vivant finalement. Et c'est très fort.
Comme quand l'apôtre Paul va dire qu'il a dépouillé les dominations, les a livrées en spectacle, à part le triomphe de la croix. C'est tout ça que l'on déclare. C'est le triomphe de la croix. C'est pas juste une mort. C'est un triomphe.
Exactement.
Une attitude d'attente aussi de s'attendre à son retour. Et ça, c'est vraiment important. Et j'aime ce que tu dis, Frank, et j'espère que les gens à la maison le réalisent, c'est qu'au-delà de l'aspect cérémonie, parce que ça devient vite un rituel ou quelque chose que l'on fait, des fois, on le fait tout le temps, donc ça devient banal. Des fois, on le fait qu'une seule fois par mois, donc ça devient, bon, faut que je me prépare, c'est la Sainte-Seine dimanche prochain. Mais on devrait tout le temps être dans une attitude où est-ce qu'on est prêt, où est-ce qu'on peut partager ce vin et ce pain, parce qu'on a justement ce regard-là par rapport à cette réalité spirituelle. Il a dit aux apôtres, il faut que vous allez manger mon corps et boire mon sang, il y en avait qui étaient choqués.
Mais oui.
Mais parce qu'ils le comprenaient avec des oreilles naturelles. Et vraiment d'arriver à ce point, comme tu dis, de le comprendre spirituellement, de voir qu'est-ce qui s'est passé à la croix et qu'est-ce que la Sainte-Seine représente.
Mais peut-être tu vas parler de ça. C'est dans ce livre que j'avais lu.
Tu peux en parler quand même.
Dans ce livre. De quel livre parles-tu?
Le livre de Derek Prince. La puissance de la Sainte-Seine, que j'avais lu la phrase « Aucun autre passé que la croix et aucun autre avenir que son retour ». Et quand on vit juste vraiment en pensant à l'œuvre de Jésus et tout, et qu'on se souvient comme ça de son retour, en fait, moi, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de choses qui seraient éliminées de nos vies même si vraiment on se focalisait sur le fait que Jésus soit mort, ressuscité et le fait que Jésus revienne bientôt. Et prendre la Sainte-Seine, vraiment, ça nous permet aussi justement d'avoir, de se focaliser sur tout ça. Et ça permet même de faire du ménage par rapport à notre vie de tous les jours. Ça permet de s'approprier des promesses, ça permet de vivre une vie dont le but est de glorifier Dieu. Parce que quand Jésus est mort à la croix, mais c'était ça le but aussi. Et ça, c'est quelque chose que on ne devrait pas juste passer à côté. On devrait vraiment prendre le temps de vivre avec ça.
Vraiment. Et Frank, donc tu disais, toi, tu prends la Sainte-Seine à la maison. Donc, on peut encourager les gens qui sont à la maison à justement préparer leur jus, leur pain. On va pouvoir prendre un petit moment pour prendre la Sainte-Seine avec eux et puis justement mettre en pratique tout ce dont on a parlé pendant cette émission.
Ouais, des fois, on peut penser que c'est un interdit si on n'est pas à l'église, si on n'est pas le pasteur, parce qu'on se dit que c'est quelque chose de tellement saint. Et ce l'est. Mais je veux dire, on peut le faire à la maison. Moi, c'est quelque chose, je l'ai fait récemment avec ma femme aussi. Encore là, on veut une percée dans un certain domaine et on se rappelle. Et comme tu as dit, c'est clair, Nadine, quand on prend cela, oui, on se rappelle de tout ce que Jésus a fait pour nous. Les gens, soudainement, ont l'impression, là, je dois mettre ma vie en règle parce que là, je vais prendre la Sainte-Seine, justement. Et puis, c'est bien, oui, que c'est pas à cause de ça que tu devrais mettre ta vie en règle. Tu devrais vivre normalement dans la sainteté et tout ça. Mais... quand tu prends la Sainte-Seine, tu te le rappelles. Et comme je l'ai dit, moi, je crois que du temps des actes, ils le prenaient plus fréquemment que nous, on peut le faire, mm-hmm. et d'une façon plus intime à la maison, avec peut-être les enfants lorsqu'ils
étaient nouveaux. On le voit, il y a beaucoup de passages où ils disent dans la fraction du pain.
Oui, c'est ça. Ils continuent comme ça. Et encore là, ça devient une espèce d'habitude, si on veut le dire comme ça. Mais à tous les fois que tu le fais, le prenant avec respect, avec révérence, évidemment, et tout ça, mm-hmm. oui, ça fait que tu te rappelles toujours, tu es conscient pleinement de ce que Jésus a fait, tu te rappelles de toutes ces choses-là. Beaucoup de gens vont pas à des églises, peut-être qui nous suivent, forcément, ou des églises qui vont prêcher ce que Jésus a fait mm-hmm. à la croix, qui prêchent la guérison et tout ça. En prenant cela, tu te le rappelles continuellement aussi oui. de ce que Jésus a fait pour toi.
C'est
et
vrai.
Ça change ta mentalité, mm-hmm. et ça fait que tu vois les choses un mm-hmm. peu différemment.
Je pense à une chose, Frank. Ouais. On va peut-être d'abord répondre à la question. Dans Pasteur, j'ai une question, pour que les gens sachent, puisqu'on
Bonne
parle
idée.
De conditions à prendre la Sainte Seine, on mmh. va peut-être s'examiner soi-même avant de prendre la Sainte Seine. Donc, Jonathan, si tu veux bien, avant la Sainte Seine, ouais. on va répondre à la question de Georgette de France qui nous a demandé justement quelles sont les conditions pour pouvoir prendre cette fameuse Sainte Seine dont on parle. Donc déjà, Jonathan, y a-t-il des conditions ?
C'est une bonne question.
Ah, bravo Georgette, question validée.
C'est une bonne question, mais elle n'est pas facile parce qu'il n'y a pas de réponse évidente. Déjà, dans chaque église, on va se poser la question qui peut prendre la Sainte Seine. Mm-hmm. C'est une des premières conditions. Mm-hmm. Est-ce qu'il faut avoir quel âge ? Est-ce qu'il faut être mm-hmm. baptisé ? Alors, il y a plusieurs réponses mm-hmm. et parce qu'il y a plusieurs façons de comprendre les choses. Déjà, dans un premier temps, Jésus dit « buvez-en tous ». Mm-hmm. Apparemment, il n'y a pas de condition, c'est pour tout le monde. Mais dans d'autres milieux, on va dire, ben non, la communion, la Sainte Seine, c'est seulement pour ceux qui sont baptisés. Mm-hmm. Alors, il y a une petite logique derrière. Moi, j'étais dans une église comme ça, puis je me suis dit à un moment donné, mais c'est marqué où ? Mm-hmm. C'est pas marqué quelque part. Mm-hmm. Mais dans une église, on peut pas être dans le désordre et de dire, bon, ben, celui qui veut,
oui.
à un moment donné, il faut donner des principes et être capable de répondre à cette question. Qui et quelles sont les conditions mm-hmm. Donc, dans la logique, Jésus parle à ses disciples. Donc, on va dire, pour prendre la communion, il faut être disciple.
Oui.
Et quand il dit « buvez-en mm-hmm. tous », il parle à ses disciples.
Tout
donc, il faut être disciple. D'autres vont un peu plus loin en disant avec Matthieu qu'on est disciple en étant baptisé. « Faites mm-hmm. de toutes les nations des disciples en les baptisant mm-hmm. au nom du mm-hmm. Père, du Fils et du Saint-Esprit. » D'autres vont dire « on peut être disciple sans être baptisé ». Donc, ce qu'il faut déjà, c'est être soumis à la façon de faire de votre église. On ne va pas faire de révolution ici.
Oui.
Y a certaines églises où il faudra être baptisé pour prendre la communion, puis il faut respecter parce que c'est l'ordre qui est dans cette église. Dans d'autres églises, ce ne sera pas une condition. On va mm-hmm. dire qu'il faut être disciple, mm-hmm. c'est-à-dire être né de nouveau.
C'est ça. Donc, né de nouveau, ça, c'est une condition sine qua non.
C'est une condition importante, mm-hmm. oui. Maintenant, après, c'est quel âge ? Il y en a qui vont dire, est-ce qu'un enfant peut mm-hmm. prendre la communion ? Et j'ai vu des églises où, en arrivant au Canada, j'étais surpris, en arrivant de France, en disant, c'est quoi cette église où des enfants prennent la communion ? Je me suis dit, à partir de quel âge mm-hmm. est-ce qu'on peut prendre la communion ? Mais là encore, ça va être une question de discipline mm-hmm. dans l'église et d'autorité. De la même manière que peut-être dans un prochain pasteur, j'ai une question, on pourra se poser la question. Je donne des idées pour ceux qui veulent poser des questions. Poser la question à partir de quel âge on peut être baptisé.
Mais oui, c'est vrai, bon, c'est une bonne question.
C'est mm-hmm. ce genre de questions-là. Alors, bon, on respecte.
Mais ça, c'est aussi un peu à l'appréciation peut-être des parents qui connaissent aussi la vie de leurs enfants, parce que le pasteur peut difficilement dire ça.
C'est ça. Mais en fait, on arrive maintenant avec mm-hmm. Corinthiens, puis aux conditions, où la condition clé, c'est de discerner. Mm. De discerner le corps de Christ.
Oui.
Le corps de Christ, c'est l'Église. Le corps de Christ, c'est ce que Christ a fait et c'est ce qu'il a accompli à la croix. Donc, la condition, si je peux dire, ou la seule et l'unique condition pour prendre la Sainte Seine, si ce n'est de prendre juste un morceau de pain et mm-hmm. puis de boire quelque chose mm-hmm. et qu'il n'ait aucun effet et aucun impact,
oui.
c'est qu'il faut comprendre ce qui se passe.
Mm-hmm.
Et donc, de discerner ce que Christ a fait à la croix. Et que quand on prend cette communion, eh bien, on s'associe et on vit quelque part. On n'est pas juste en train de se souvenir,
ouais.
mais on est en train de s'approprier l'alliance, les promesses, les conséquences, la bénédiction de la mort de Jésus à la croix pour nous et de sa résurrection.
Mm-hmm.
Donc, c'est la condition clé. Maintenant, dans certaines églises, on va dire, mais attention, si ta vie n'est pas en règle, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine.
Mm-hmm.
Je suis un peu frileux avec ce, je comprends le raisonnement, mm-hmm. mais qui a sa vie en règle ? Jusqu'où on va dans le scan mm-hmm. et pour savoir, bon, est-ce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qu'on peut se reprocher un jour ?
Mm.
Si on met du détail, on aura toujours quelque chose à se reprocher parce qu'on est loin,
d'être parfait.
Et des fois, on a des choses. Et quelque part, je trouve ça un peu contre-productif, si je peux utiliser ce mot-là, mais un petit peu bizarre, de dire si quelqu'un est là dans une situation difficile et qu'on lui dit « t'as pas le droit de prendre la communion », je veux dire, au contraire, c'est là qu'il va trouver sa délivrance, son secours, s'il discerne évidemment ce qui se passe ici. Et de la même manière, je trouve ça un peu spécial quand dans certaines églises, on met sous discipline. Mm-hmm. Bon, il y a un reliquat catholique hein, derrière ça où on excommuniait, c'est-à-dire on interdit de prendre la Sainte-Seine, excommunier, de dire, bon, si quelqu'un a fait une bêtise, il est privé de Sainte-Seine pendant un mois ou pendant deux mois. Hein. Il y a certaines églises qui mettent sous discipline et le résultat, c'est on ne prend pas la communion.
D'accord.
Non, c'est pas comme privé de dessert un enfant ici. Au contraire, si quelqu'un... si quelqu'un a commis un acte ou est tombé ou a mal agi, eh bien, il a besoin de la communion, il a besoin de la Sainte Cène et de revenir à la croix et puis d'être lavé, purifié par le sang de Jésus et puis se souvenir de ce que Jésus a fait pour lui. Mais il faut évidemment que ça se fasse avec ce discernement. Mm-hmm. Ce n'est pas juste un geste pour un geste.
C'est ça.
C'est vraiment...
On rigole pas avec ça.
Alors, il faut de la repentance, évidemment. Voilà. Il y a de la repentance, il y a du sérieux. Et on s'approprie ce que Christ a fait à la croix. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas un acte magique en disant « si je prends la communion, tout va être réglé ». Non, c'est si je comprends ce que Christ a fait à la croix et
reprends.
La communion ben, me permet de vivre ça d'une manière plus concrète.
Mm. Ok, merci beaucoup Jonathan. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurjayunequestion@emcitv.com. Et on va donc prendre la Sainte-Cène maintenant. Ouais. Franck, si tu veux bien partager le pain. Exactement.
Et puis en fait, je vais vous encourager à la maison, c'est ça, si vous voulez le faire avec nous, ben mettez sur pause ou allez vite si vous êtes à la télévision et revenez. Et puis...
ou attendez la rediffusion de ce
ouais,
soir.
Oui, c'est ça. Et en fait, qu'est-ce que je veux vous encourager à faire présentement, c'est juste de vous rappeler et de penser à une certaine situation peut-être que vous vivez. Parce que comme je l'ai dit, vous avez peut-être jamais pris la communion dans l'optique « je vais recevoir au travers de ce que je vais relâcher ma foi, je crois dans ce que tu as fait Jésus pour moi et je veux vivre cette percée dans ma vie ». C'est financier, c'est ça dans le corps physique, la maladie qui est peut-être là, une percée pour la vie de vos enfants, des choses comme ça qui vous ont été promises au travers de la nouvelle alliance, de la bénédiction de Dieu qui est là. Faites juste, prenez un temps là et pensez à ce que vous voulez vivre comme percée et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ensemble la communion, on va prier ensemble. Et puis, avant d'y aller aussi, ben, ça, la parole est claire, elle nous dit de s'examiner soi-même aussi. Et je crois personnellement qu'avant de prendre la communion, c'est important de pouvoir s'examiner soi-même. S'il y a vraiment quelque chose qui est là, si tu sais que tu dois pardonner à quelqu'un, s'il y a quelque chose qui doit être fait, fais-le avant de prendre la communion. Vraiment, fais-le, je t'encourage à le faire. Fait qu'on va juste prendre juste un petit moment pour s'examiner soi-même avant de prendre la communion ensemble. Père, je te remercie pour ce que tu as fait pour nous au travers de ton Fils Jésus. Je te remercie, Jésus, d'être allé jusqu'au bout de la croix pour pouvoir nous pardonner de tout péché. Tout a été effacé, on veut t'en remercier. Et je veux te remercier parce que ton corps a été meurtri afin que nous soyons guéris, nous dit 1 Pierre 2, 24. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris, on veut t'en remercier. Je te remercie parce que tu es fidèle et que tu ne refuses pas à tes enfants de pouvoir obtenir ce que tu as acquis pour eux, Père. Et je te remercie parce que tu es toujours bon. Tu es toujours, toujours bon envers tes enfants, Père. Je te remercie. Tu es juste. Tu es juste. Tu es fidèle. Fidèle à toutes tes promesses. Et Jésus t'avait dit que ceci était ton corps qui avait été rompu pour nous. Et on veut juste se rappeler maintenant de ce que ton corps a été brisé pour nous et de ce que tu as fait pour nous au travers de l'œuvre de la croix, que tu as dépouillé, comme cela a été dit, toute domination, toute autorité, tu les as mis sous tes pieds. Tu as porté les maladies du monde, tu as porté la malédiction, Galates 3:13 nous dit, car quiconque est maudit, celui qui est pendu au bois. Mm-hmm. Tu as porté la malédiction pour nous. On veut t'en remercier de ce que tu as fait pour nous. On fait ceci, oui, en mémoire de toi, mais en croyant qu'on va recevoir la percée qu'on a besoin dès aujourd'hui, on va relâcher notre foi. Frères et sœurs, faites juste mangeons ensemble et dans une attitude de foi aujourd'hui. te remercie pour les guérisons. Je te remercie pour les guérisons, Père. Les guérisons que tu opères aujourd'hui, comme tu l'as fait tellement de fois dans le passé, les guérisons maintenant même. Nous parlons la guérison dans leur corps. Nous décrétons, nous associons notre foi à la leur. Nous déclarons qu'ils ont été guéris et que ça se manifeste dans leur corps physique au nom de Jésus. On te remercie, Père. Et on veut se rappeler de ce que tu as versé ton sang pour nous dans cette nouvelle et glorieuse alliance dans laquelle on fait partie. Je te remercie parce que c'est tellement un privilège. C'est tellement fort de faire partie de cette alliance. Ton sang qui a été versé, tu as complètement effacé tous nos péchés. C'est glorieux et je veux t'en remercier, Seigneur. Je te remercie pour ce que tu as fait pour nous. Et on fait ceci en mémoire de toi encore une fois et croyant que tu vas agir encore dans nos vies. Et on te remercie parce que oui, comme ça l'a été dit, tu es mort, ressuscité et tu reviens bientôt. Et Père, je te remercie pour peut-être la conviction que ça va porter dans le cœur de certaines personnes maintenant de pouvoir vraiment vivre en règle, régulièrement, quotidiennement, de ne pas jouer avec le péché. Mais ce que tu as fait, t'a coûté tout. Et on fait ceci en mémoire de toi aujourd'hui. On te remercie, Jésus. Amen, amen, amen.
Amen, amen. Merci, Frank, pour ce temps de partage. Et à la maison, je crois que vous avez été béni et vous avez reçu, vous avez appris quelque chose par rapport à la Sainte Cène. Et on va rester dans notre thème. On va continuer maintenant en découvrant le livre de la semaine dans la rubrique Culture et Médias.
Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com.
Nadine.
Amen, amen. Alors, on passe à La puissance de la scène, ce livre de Derek Prince. Derek Prince est un homme de Dieu britannique qui était né en 1915, donc quand même ça remonte un petit peu, mais il est décédé en 2003. Donc quand même, il a eu un grand ministère de plus de 30 ans, il a écrit énormément de livres. Et dans un de ses livres, c'est La puissance de la scène. Alors, un peu comme Frank a parlé pendant l'émission, c'était vraiment une explication de qu'est-ce qu'est la Sainte Cène, une explication de ce qu'est la Sainte Cène au niveau de la proclamation, au niveau de l'annonce, l'attente du retour du Seigneur, au niveau de ce que ça fait, le souvenir de ce que Jésus a fait, de ce que nous nous approprions. Il explique clairement l'alliance qui était par Melchisédek avec Abraham, parce qu'on pense que des fois la Sainte Cène s'est manifestée autour que Jésus lui-même, quand il a dit la T'sais, vous allez rompre, ceci est mon corps, ceci est mon sang, mais il remonte même à avant, que dès la Genèse, on avait déjà la Sainte Cène qui était présente, et comme la Bible dit dans Hébreu que Jésus, c'est Melchisédek, en fait, et donc il est le sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et donc il reprend un petit peu ça, il explique clairement tout ça. C'est un petit livre, mais c'est très profond. Donc, c'est à relire et à recomprendre. Et il prend beaucoup des textes de Hébreux et de 1 Corinthiens pour expliquer. C'est des réalités spirituelles qui, des fois, prennent du temps, surtout si on n'est pas enseigné là-dessus dans notre église locale. C'est des choses qu'on n'appréhende pas tous les jours. Donc, ça vaut la peine de prendre le livre, de l'écrire, de le lire, de le comprendre, d'aller dans la Bible, de lire le verset dont le pasteur parle, de chercher avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit illumine les yeux
de mon cœur. C'est un livre d'études.
C'est un livre d'études, ouais. C'est pas un livre de juste lire comme ça. C'est vraiment un livre d'études. Mais je trouve qu'il est super complet. Il explique très, très clairement et c'est accessible quand même. Oui, c'est profond, mais c'est très accessible et tout le monde, vraiment, j'encourage les chrétiens à le lire parce que c'est une réalité importante qu'on doit connaître en tant que chrétien aussi. La Sainte Cène, qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que la fraction du pain? Ce qu'on vient de faire ici, qu'est-ce que ça représente dans notre vie quotidienne? Comment on peut vraiment aller chercher, comme tu as dit Aurélie, des réalités dans notre vie au travers de la Sainte Cène. Donc, La puissance de la Cène de Derek Prince, disponible sur emciboutique.com.
Merci beaucoup, Frank et Aurélie, vous l'avez lu et je pense que vous le recommandez également.
Exactement, ouais.
C'est parfait. Merci Nadine. On continue maintenant avec la rubrique témoignage. Donc Aurélie, on parle guérison et guérison instantanée aujourd'hui.
Ouais, exactement. C'est l'histoire de Chantal, qui est une Togolaise qui vit au Sénégal, le pays de Pasteur Jonathan.
Ouais, compliqué, une Togolaise au Sénégal.
Un blanc qui est né au Sénégal, c'est compliqué aussi.
Ça se voit pas que je suis sénégalais.
Si, si.
Et Chantal nous a fait une vidéo qu'on peut regarder tout de suite.
Bonjour, je m'appelle Chantal et je voudrais partager mon témoignage de guérison spontanée. Il y a quelques mois, j'ai été malade, j'avais le palu et quelques jours après, c'était une grippe avec extinction de la voix. Et je suivais un traitement qui me donnait comme effet secondaire des courbatures, des palpitations, je dormais mal, j'avais des frissons, j'allais pas bien du tout. Et une nuit, j'en pouvais plus et je me suis rappelé qu'une de mes amies m'avait envoyé quelques mois avant cela une prière. C'était la prière avec Pasteur Jérémy, la prière contre 150 maladies. Et je me suis dit, il me faut cette prière-là. J'étais tellement mal que j'ai écouté cette prière-là. Et avec foi, à chaque fois que le pasteur citait une maladie et qu'il disait, tu es guéri, je disais, amen, amen, avec foi. Et instantanément, les douleurs sont parties. La fièvre est tombée, je me sentais très bien, plus de palpitations, plus de frissons. Je me sentais tellement bien que je me suis endormie 5 minutes plus tard. Et c'était ma première nuit complète après plus d'un mois et demi. Vraiment, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et je voudrais encourager tous les malades à y croire et à recevoir leur guérison. Merci, soyez bénis.
Gloire à Dieu.
Wow.
On aime.
Oui, vraiment, gloire à Dieu. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que sa maladie avait duré comme plus d'un mois.
Ben oui, c'est bien.
Et vraiment, elle avait des symptômes qui étaient désagréables. Et elle ne dit pas forcément tout ce qu'elle avait dans la vidéo, mais quand elle nous a écrit, mais elle a dit qu'elle avait comme... Elle suivait un traitement qui lui donnait des effets secondaires. Et là, il y avait des courbatures, des douleurs articulaires, musculaires. Elle dit qu'elle avait l'impression que sa tête allait exploser. Elle n'arrivait même plus à tenir comme sa tête sur son cou. Elle attachait toujours sa tête avec une espèce de foulard. Elle ne supportait plus le poids de sa tête, en fait. C'est terrible. Avait plein de fièvre et de frissons. Donc, c'était vraiment quelque chose d'assez difficile pour elle. Et c'est cette fameuse nuit-là, à 4h du matin, alors que ben, le poids de ses souffrances lui a fait chercher la vraie solution, en fait.
Oui.
Et c'est comme ça qu'elle s'est tournée vers cette vidéo de prière inspirée, où elle a pu recevoir sa guérison instantanément. Et là, vraiment, on peut que bénir le Seigneur, en fait, pour elle, parce que là, on a vu comment elle a activé sa foi, mais par rapport à l'œuvre de la croix, en fait. Et je vous dis aussi, c'est de ça qu'on a parlé, alors qu'on parlait de la Sainte Cène. C'était vraiment d'activer sa foi pour que tous les bénéfices de l'œuvre de la croix deviennent notre partage. Et je pense vraiment que les personnes qui nous écoutent, alors qu'elles ont choisi aussi de mettre leur foi, ben, en Dieu, ben, elles aussi, elles vont vivre ces bénéfices de la croix. Et il y aura des guérisons pour plusieurs personnes qui nous ont suivis et qui ont pris la Sainte Cène avec nous aujourd'hui.
Amen. Merci pour ce témoignage, Aurélie. Et merci à la sœur qui a partagé son histoire aussi. Si vous avez des témoignages à nous partager par rapport aux émissions, écrivez-nous à l'adresse témoignage@emcitv.com. Vous pouvez faire une vidéo ou pas, libre à vous. Vous pouvez même témoigner de manière anonyme. L'important, c'est de rendre toute la gloire à Dieu. Amen. Et si vous avez un témoignage par rapport à la Sainte Cène, le temps qu'on a pris aujourd'hui, peut-être la révélation que vous avez eue, vous pouvez nous écrire également. On se réjouit toujours de voir ce que Dieu fait dans la vie de nos chers frères et sœurs qui nous suivent régulièrement. Merci à vous tous pour cette délicieuse émission qui nous a éclairés.
Joyeuse Pâques.
Et joyeuse Pâques. Joyeux lundi de Pâques. On termine cette journée de Pâques en beauté avec la Sainte Cène et on va se retrouver demain. Notre thème sera « Cesse de te mépriser, tu as de la valeur ». Donc si vous avez tendance à manquer d'estime de vous-même, cette émission est pour vous. Et nous aurons une rubrique famille avec une invitée, pasteur Aïda Moussavou, qui nous vient tout droit de ACER, Rennes en France. Donc on se retrouve demain, soyez bénis et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.